pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est le Régor, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir, et bien pour cette émission de ce soir, la première partie sera consacrée à la suite de la semaine dernière, concernant donc l'Algérie, avec la fin de l'intervention de Sidi Moussa. Sidi Moussa était en Algérie, il est revenu le 8 avril. Il va nous dire un petit peu de quoi qu'il en retourne de ce mouvement social important, puisqu'effectivement l'Algérie est en train de changer.
La situation est, bien sûr, je ne demande pas forcément une réponse, mais peut-être une réflexion là-dessus. C'est quoi les perspectives aujourd'hui? Alors, après ton retour donc, d'Alger, les choses se sont un petit peu accélérées avec la démission donc, de Bouteflika. Il a été poussé, enfin du moins, je ne sais pas si lui est encore en état de... s'il est encore en état de quoi que ce soit, d'ailleurs. Enfin, il y a eu cette annonce de la démission de Bouteflika et on a l'impression que au sein du régime, il y a des luttes, plusieurs luttes entre factions rivales. Mais bon, c'est pas nouveau. Ça, on sait que ce régime est traversé en interne par des contradictions dont on peut percevoir parfois les frissons comme ça, dont on connaît pas très bien les tenants et aboutissants. Enfin, quand on n'est pas des spécialistes. En tout cas, là, le Bouteflika a été mis hors circuit. Il y a une transition qui va être mise en place. Là encore, il y a des discussions pour savoir qui va tenir les rênes pendant la période de transition. Ensuite, l'organisation éventuelle, l'organisation de nouvelles élections. On sait bien que un des motifs récurrents de ce genre de situation, c'est le recours au vote, comme si l'élection allait régler tous les problèmes. Ça, c'est la carotte démocratique qu'on sort à chaque fois. Selon toi, quels sont pour la population qui aujourd'hui a participé massivement à ce mouvement, à ce Hirak, donc, quelles sont les perspectives qu'on peut dessiner? Qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que c'est à la lumière des printemps arabes, Tunisie, Égypte, Syrie, Libye, bien entendu, en disant que chaque situation est particulière. Qu'est-ce qui peut se dessiner éventuellement là-bas?
Bon, évidemment, c'est toujours difficile de d'imaginer les scénarios possibles, ou en tout cas de les prédire avec certitude, en tout cas, sachant que la situation évolue d'heure en heure et que je n'ai pas eu le temps de m'informer aujourd'hui ni hier sur les derniers développements, donc je risque de dire quelque chose qui est déjà périmé, qui est déjà dépassé. Mais en tout cas, aux dernières nouvelles, avec l'application de l'article 102, donc la démission du président, le scénario qui est prévisible, en tout cas qui était sur la table, est-ce qu'il l'est encore? Alors, je répète, je ne le sais pas. C'était que le président du Conseil de la Nation, c'est-à-dire l'équivalent du Sénat en France, devienne un président par intérim et organise sous 90 jours de nouvelles élections présidentielles. Donc ça, c'est la solution qui a été
institutionnelle, quoi.
Voilà, institutionnelle, qui a été poussée et mise en avant par toute une série de contestataires, de militants démocrates, on va dire, voilà, peu importe ce qu'on entend par démocrate, ça semblait le compromis ou le scénario, la feuille de route la plus acceptable, sachant que, pour eux, hein, pas pour moi, sachant que dans une certaine gauche, hein, plutôt social-démocrate, voire un peu plus, ils ont eux-mêmes établi leur propre feuille de route qui, de toute façon, n'est pas incompatible avec celle-ci, hein, qui s'articule complètement en réalité et qui consistait à vouloir instaurer une sorte de gouvernement de transition, alors avec des personnalités dites nationales qui feraient consensus. Qu'est-ce que le consensus ? Qu'est-ce que des personnalités nationales ? Sur quelle base est-ce qu'ils vont les appeler ? Est-ce qu'ils vont être élus ? On n'en sait rien. Mais disons que c'était un peu ça le scénario. Et qu'ensuite, eh bien, on allait vers une assemblée constituante pour ensuite revenir à la normale. Et donc, deuxième république, et puis voilà, rentrez chez vous, circulez, il n'y a rien à voir, on va avoir une bonne démocratie comme il faut. En fait, beaucoup fantasment sur ce qui se passe en France, peut-être jusqu'au mouvement des Gilets jaunes, mais je ne sais pas si ça a beaucoup changé au niveau de leur conception, en tout cas du point de vue des militants professionnels, des élus, qui se projettent tous d'ailleurs dans la deuxième république. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, enfin, je me permets d'ouvrir une parenthèse, ce qui m'a frappé, c'est la mais dans ce genre de situation, c'est assez compréhensible. C'est à quel point est-ce que les ambitions remontaient à la surface. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été frustrés au cours des dernières années pensent aujourd'hui que l'horreur est arrivée. Ouais. Donc soit on va les appeler, soit on va faire appel à eux, soit ils se projettent dans des combinaisons politiciennes, dans des tactiques, des alliances éventuelles, sachant que tout ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Mais Ça m'a vraiment marqué, en tout cas. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Disons que, voilà, un des scénarios, ça serait ça. C'est-à-dire, pour ceux qui défendent aujourd'hui la Constitution, alors que, bon, franchement, défendre la Constitution algérienne, s'appuyer dessus, faut vraiment le faire, quoi. Mais, certaines personnes, aujourd'hui, voilà, la mobilisent, veulent s'appuyer sur tel ou tel article qui leur semble un peu plus démocratique que d'autres. Donc, ça serait un des scénarios. Donc, le scénario, disons, qui irait vers un changement, mais sans trop de bouleversement, c'est donc celui-ci. Donc, sous 90 jours, une élection présidentielle. Et ensuite, voilà, en attendant, tout le monde rentre chez soi. Et chez d'autres, qui sont un peu plus à gauche, un peu plus politisés, c'est l'Assemblée constituante. Voilà, c'est un peu ce qui est mis en avant aujourd'hui.
Je voulais te poser une question, tout à fait en restant dans ce que tu dis comme scénario possible. Il y a quand même un problème, c'est que tant que la population est dans la rue, c'est pas sa place quand même, bon, pour tout pouvoir, quel qu'il soit, même constituante, même transitoire. Donc est-ce que ce scénario peut être troublé par le fait que la population continue à être dans la rue ? Parce que dans la rue, c'est pas uniquement on peut se balader ou mettre des pancartes, si on discute quand même, s'il n'y a pas de lieu, comme tu dis, vraiment précis. Donc c'est toujours très dangereux. Et est-ce que dans cette situation-là, bon, d'abord, est-ce que tu penses que c'est plausible que ça se prolonge pour que ce scénario ne se fasse pas aussi bien ? Et est-ce que, là c'est pareil, c'est difficile de faire des projections, mais moi l'impression que j'ai comme ça, à travers bien plus loin que toi, hein, je ne suis pas allé sur place, j'essaie de comprendre, l'impression que j'ai, c'est que l'armée veut montrer qu'elle est là. D'accord, elle est aux côtés du peuple, mais elle maintient l'ordre, quand même. Bon, il y a des gens qui aspirent à un espèce d'ordre, égale sécurité, etc. Quelle est l'attitude de l'armée ? Et pour aller encore plus loin, est-ce qu'à ton avis, l'armée est quelque chose d'homogène ? C'est quelque chose de très, très important, hein, au niveau, y compris au maintien de l'ordre. C'est largement plus important dans ces pays-là, même peut-être malheureusement chez nous, mais que la police, proprement dit. Est-ce qu'il n'y a pas des risques qui seraient peut-être positifs que, au niveau de, je sais pas moi, des officiers, j'ai vu qu'il y avait je crois que c'était plutôt des anciens militaires qui sont venus dans les manifestations, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas, voilà, est-ce que l'armée est aussi homogène qu'elle veut paraître ?
Alors moi, voilà, je suis pas dans le secret des dieux. Donc mais dès qu'il s'agit de sources sécuritaires, de l'armée, des services et autres, moi j'ai pas mes entrées. Mais on peut évidemment imaginer, il y a peut-être des éléments qui permettent de l'attester, que dans cette situation, jusqu'à il y a encore quelques jours, est-ce que ça va se poursuivre ? Je pense que tout le monde marchait sur des œufs. Personne n'était sûr de la fiabilité au sein de n'importe quelle institution. Ouais. Ce qui a permis peut-être de comprendre pourquoi le chef d'état-major à Gaït Salah a avancé tout doucement. et s'est démarqué progressivement. Hein, il a essayé de voir comment est-ce que la situation allait évoluer. Et puis à un moment donné, il a compris que la population, de toute façon, n'allait pas accepter ni un cinquième mandat, ni un quatrième mandat et demi. Et c'est là qu'il a suggéré, là aussi, hein, il a suggéré, j'étais sur place, l'application de l'article 102, donc la destitution, la démission du président. Moi, ce que j'ai vécu sur place, je peux en témoigner. J'ai pas de smartphone, donc je suis souvent déconnecté. J'attends de lire la presse ou de me connecter chez moi ou de discuter avec mes amis pour être informé. Mais j'ai pas compris ce qui s'était passé ce jour-là. C'est-à-dire, le moment de l'annonce, hein, c'est un après-midi, j'ai senti tout de suite un climat de tension dans la ville, à Alger, avec des attroupements, des personnes qui discutaient, qui se battaient même. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où le chef d'état-major a parlé, là, on n'était plus dans l'euphorie. C'est qu'on sentait que les choses sérieuses allaient se profiler et qu'on allait se préparer soit à une confrontation, soit, et je reviens à ta précédente question, Mohamed, soit on risquait d'aller vers un scénario à l'égyptienne. Et ça fait partie des choses que moi-même, j'ai avancé assez tôt, parce que quand on parlait des scénarios possibles, on utilisait plutôt comme épouvantail le scénario libyen ou le scénario syrien. Alors voilà, évidemment, personne ne veut que l'Algérie s'oriente vers une telle catastrophe. Mais bizarrement...
Surtout qu'elle l'a déjà vécu.
Non mais en plus, elle l'a déjà vécu. Oui.
Et, excuse-moi, mais là, on a vraiment l'impression que les militaires n'ont pas envie de refaire ce qu'ils ont fait en 91. Quoi. C'est-à-dire interrompre un processus et puis prendre le pouvoir directement avec la catastrophe que ça induirait.
Mais justement, là, j'ai pas, moi, les éléments. Et,
oui, bien
et
sûr,
seul l'avenir nous dira s'ils ne veulent pas, s'ils le veulent, mais ils ont des doutes sur la fiabilité de leurs troupes, ou alors, au contraire, ils ont peur d'une réaction négative de la population. Mais justement, bah, pour poursuivre ce que je disais, je vais te répondre également, c'est que, étrangement, dans les milieux militants, intellectuels et autres, on parlait très peu ni du scénario tunisien, notamment de la constituante qui traîne, qui ne règle pas la question sociale et qui permet justement à des caciques de l'ancien régime de refaire surface, voilà,
oui,
complètement. Donc ça, bizarrement, on n'en parle pas trop, on n'en a pas trop parlé, mais je pense qu'il va falloir en parler sérieusement là-bas et ici. Et on ne parlait pas trop non plus du scénario égyptien, parce que ça faisait peur. Et ça voulait dire qu'à un moment donné, bah oui, on va devoir envoyer des messages à l'armée en disant « vous restez à votre place ». Et ça me permet de revenir sur la très grande ambivalence que j'ai perçue sur place. Hein, donc il y avait beaucoup de slogans et je ne pouvais pas savoir à quel point ce sont des choses spontanées qui viennent de la population ou alors si ce ne sont pas des campagnes qui ont été poussées par telle ou telle officine. Il y avait cette aspiration à la fraternisation avec l'armée et la police. Bon, évidemment, moi ça me faisait bondir. Mais qu'est-ce que... J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on pouvait analyser ça. C'est que d'une part, il me semble que l'idéologie militariste, le militarisme en Algérie, est assez, assez profond, assez puissant. Parce qu'il y a toute une série de familles, très nombreuses familles, qui vivent d'une manière directe ou indirecte de l'armée. Parce qu'ils ont quelqu'un qui travaille, etc., les pensions et autres. De l'autre côté, ça peut aussi vouloir dire... Voilà, vous les militaires, vous les hommes en uniforme, et femmes aussi, notamment pour la police, vous êtes du peuple. D'ailleurs, vous faites partie de... On est tous un même peuple. Venez avec nous, rejoignez-nous, ou alors, à tout le moins, ne nous tirez pas dessus. Oui. Je pense qu'il y a cette ambivalence, elle est là aujourd'hui, sachant que pour le moment, comme... Je pense que les Algériens ne veulent pas repartir dans une confrontation armée pour l'heure. Moi, je ne le souhaite pas non plus. Ils veulent essayer de trouver les formulations et les moyens pour ne pas y aller. Et il est probable aussi que du côté des militaires, ce soit le cas également. Mais je tiens également à rappeler autre chose. C'est qu'il n'y a pas que l'armée en Algérie, il y a aussi la police. Et c'est la police qui, pour le moment... gère l'ordre. En tout cas, c'est plus l'armée qui s'en occupe et elle le fait pas toujours d'une manière très pacifique, même si leur doctrine c'est la gestion démocratique des foules. Ça ressemblait un peu à ce qu'on a pu voir ici, hein, de ce côté de la Méditerranée. Quand on montait un peu trop du côté des hauteurs d'Alger, on s'est fait canarder avec un pote. Par les lacrymogènes, hein, pas par des balles, heureusement, et foncer dessus par des blindés. Donc, la police laisse faire jusqu'à un certain point, mais elle est là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il me semble qu'elle a envie de serrer la vis en ce moment. Ouais. Donc toute cette effervescence, ça commence à fatiguer les tenants du pouvoir, les bourgeois et autres. Et ils ont envie que la populace rentre chez elle et que tout reprenne comme avant finalement. Voilà, donc non, du point de vue des services de sécurité, de l'armée, de la police, il faut vraiment... faut avoir des éléments d'informations dont je ne dispose pas.
Mohamed, est-ce que tu peux nous dire ce que nous venons d'écouter là, s'il te plaît ?
Avec plaisir, Monique. Il s'agissait de Rock the Casbah, un titre des Clash merveilleusement interprété par Rachid Taha. Et puis ça tombe bien parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a du rock dans la Casbah à Alger. Il y avait deux ou trois points que tu voulais évoquer justement sur ce qui se passe actuellement en Algérie. La question de l'unanimisme.
Oui, qui me semble comme celle du nationalisme d'ailleurs. Enfin, ça fait partie des échanges que j'ai pu avoir. Parce que ce qui est vraiment impressionnant là-bas, c'est et en particulier le vendredi, mais pas seulement le vendredi, c'est de voir partout les drapeaux algériens. Mais pas seulement. C'est là où je voulais également apporter un complément. Il y avait aussi le drapeau amazigh, donc le drapeau berbère, qui était très présent lors des marches du vendredi. Et ce qui, à mon sens, témoigne d'une révolution symbolique, puisque... imaginez cela après la répression du printemps noir de Kabylie en 2001 à Alger, où il y a eu des tensions et un ressentiment très fort contre les Kabyles, contre les Berbères en général. Ça montre aussi que les mentalités ont évolué au cours des dernières années, et plutôt dans le bon sens, et plutôt justement dans le sens de l'acceptation d'une Algérie plurielle. Alors, avec des limites là encore, puisque ce qu'on appelle en Algérie les constantes nationales, enfin ça c'est le discours des autorités, c'est l'islamité, la berbérité et l'arabité. Bon, une des questions que j'avais posées quand j'ai présenté mon bouquin sur place, c'est est-ce qu'on peut être algérien ou est-ce qu'on peut vivre en Algérie mais ne pas accepter ou ne pas adhérer à ces constantes nationales, notamment du point de vue de la religion. Et on m'avait répondu au premier rang, ah, c'est difficile. C'est difficile, mais je pense que c'est une question qu'il faut poser aujourd'hui, enfin qu'il faut avancer, et ce qui me permet aussi d'évoquer, encore une fois, sans trahir de confidence ni l'identité de mes interlocuteurs, mais j'ai eu l'occasion à chaque fois que possible de discuter de la question de la séparation de la religion et de l'État. Hein, si, moi, j'aimerais aussi qu'on se sépare de l'État.
Ça s'appelle la laïcité.
Voilà, ça s'appelle la laïcité, pour utiliser le gros mot, ou le sécularisme, peu importe. Et en fait, oui, j'avais des réponses, notamment chez des personnes très engagées dans le mouvement, plutôt démocrates, qui me disaient « oui, mais c'est pas le moment ». C'est pas le moment parce que ça va diviser, ça va fâcher. Et il faut d'abord qu'on chasse le président, bon maintenant on l'a chassé, ou qu'on chasse ce régime ou ce système, et ensuite on va voir. Et ça, oui,
c'est bon. C'est un vieux discours qu'on tient depuis très longtemps sur plein d'autres questions, pas uniquement sur celle-là.
Et justement, alors bon, je ne veux pas non plus développer la ce que j'ai eu, justement des débats et des discussions très intéressantes avec des personnes qui pouvaient être croyantes ou pratiquantes, mais qui comprenaient la nécessité d'effacer l'article de la Constitution qui dit que l'islam est la religion d'État, puisque c'est absurde qu'un État ait une religion, et qu'il faut, au contraire, ils étaient sensibles à des arguments pour une neutralité bienveillante ou une séparation sous différentes formes. Mais l'autre aspect de l'unanimisme que j'ai retrouvé, c'est également, lorsque j'étais témoin, lors de la dernière manifestation à laquelle j'ai assisté le vendredi, de l'agression du carré féministe à Alger, juste à côté de la fac centrale, où j'ai pas tout de suite compris ce qui se passait. Donc il y a eu une confusion, la confusion la plus totale. Bon, je veux pas faire le récit tout à fait des événements, mais parmi les arguments que j'ai entendus de la part d'hommes, il y a eu beaucoup d'hommes du coup qui sont arrivés à ce moment-là, c'était que les féministes, donc les femmes qui défendaient notamment l'abrogation du code de la famille, entre autres, dans mes souvenirs, eh bien elles divisaient le mouvement. Elles divisaient le mouvement parce que physiquement, déjà, elles étaient à part, elles n'étaient pas dans la marche. Donc déjà, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de manifester, c'est quelque chose qui apparaît saugrenu, en fait, pas approprié du tout, surtout dans cette ambiance euphorique, patriotique, etc. Et j'ai entendu également, de manière très explicite, des paroles antiféministes. C'est-à-dire, quelqu'un qui disait, mais l'égalité homme-femme, et puis quoi encore ? et puis quoi encore. Et j'ai entendu plein d'autres choses également, hein. On m'a fait d'autres confidences, notamment sur le fait qu'il y avait eu, dès la marche du 8 mars, donc celle où les médias français et internationaux ont loué la participation massive des femmes et la bienveillance, l'extrême bienveillance des manifestants hommes à l'égard des femmes, eh bien apparemment c'était pas aussi bienveillant que ça. Mais là encore, moi-même je n'étais pas au courant, c'est sur place, on m'a fait des confidences, on m'a appris des choses, et donc certaines féministes ont refusé de rendre public les attouchements et les agressions qui ont eu lieu dès le 8 mars, donc c'est pas lors de la manifestation à laquelle j'ai participé, pour deux séries d'arguments. Premier argument, c'est qu'elles avaient peur d'être accusées de diviser le mouvement. Deuxième argument, c'est que si on rendait public ces agressions et ces attouchements, eh bien les pères, les frères et les maris pouvaient empêcher les femmes d'aller manifester. Et cette opinion, elle existe aussi à la gauche et à la gauche de la gauche en Algérie. Faut aussi bien comprendre aussi le climat dans lequel on est. Mais c'est des discussions qu'on a eues en toute franchise avec des militants qui étaient d'ailleurs prêts à répondre à l'appel des féministes s'ils avaient besoin de faire un carré et qu'il y ait éventuellement un service d'ordre. Donc ces débats-là commencent à arriver. Donc la question sociale, la question de la religion, la question sexuelle, la question politique, de quelle démocratie aussi on veut en Algérie, sachant que il y a une très grande frustration à l'égard de la démocratie représentative, puisque les Algériens ont eu le sentiment, et ce n'était pas qu'un sentiment, de se faire voler la seule élection plurielle, donc après octobre 88, où ce sont les islamistes qui étaient devant, puis interruption du processus électoral par l'armée. Et donc il y a chez certains l'idée qu'il faudrait remettre en place, il faut qu'il y ait des partis, il faut qu'il y ait de bonnes élections propres et qu'on ait un bon président. Donc ça serait le summum de la démocratie pour l'Algérie. Mais moi, je pense qu'au contraire, on peut aller beaucoup plus loin et qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la critique de la démocratie représentative. Voilà ce que je voulais évoquer sur l'unanimisme, sur ce patriotisme et ce nationalisme qui inhibe y compris des militants ou des individualités de la gauche de la gauche et qui ne savent pas comment se démarquer de peur justement d'être accusés de diviser.
Avant de laisser la parole à Serge, je voudrais juste t'inviter à nous présenter le numéro du dernier CQFD, celui du mois d'avril, qui consacre un excellent dossier à l'Algérie.
Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a un jingle pour la
3, publicité.
3-4
minutes. Allez.
Voilà, ou l'autopromo. Ouais,
publicité sur Radio Libertaire, mais c'est pour un journal ami, donc on peut...
Voilà, un journal ami auquel, bon, on le sait, hein, je collabore de temps en temps, comme maintenant je collabore aussi au Monde Libertaire, mais pas seulement. Je salue aussi mes amis de la révolution prolétarienne. Donc CQFD de ce mois consacre un dossier spécial à l'Algérie. Donc on a, je crois qu'on a au moins 6 pages, mais plus que ça, qu'est-ce que je raconte, on a 9 pages sur l'Algérie, donc avec un dossier qui est introduit par Mathieu Léonard, qui d'une manière très intelligente détourne un slogan qui vient du mouvement du printemps noir, donc de 2001. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était « Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts ». C'était ça le slogan qui était porté par les manifestants, et là le titre c'est « Vous ne pouvez pas nous tuer, vous êtes déjà morts ». Hein, et donc il introduit le dossier où il y a donc un historique sur les marches, donc où on a des descriptifs assez intéressants sur ce qui s'est passé à Alger, mais pas seulement à Alger, un article qui revient sur l'humour des Algériens, sur ce qu'on retrouvait, c'est vrai, hein, au niveau des slogans dans ce mouvement. Alors bon, c'est enfin, l'humour n'est pas propre aux Algériens et il n'est pas non plus propre à ce mouvement. Et une des banderoles qui était déployée sur la place Maurice Audin et que j'ai vue, c'est Goulna guerre, c'est guerre, c'est-à-dire nous avons dit tous, c'est tous. Sous-entendu, ça veut dire nous avons dit qu'ils dégagent tous, c'est tous. Mais demandez à vos amis algériens de vous raconter une blague qui se termine par guerre, c'est guerre. Je ne peux pas la raconter à l'antenne de peur de susciter des réactions hostiles. Donc j'ai également écrit un article sur le slogan FLN dégage, sur sa signification, sur l'origine du FLN. Il y a aussi une interview avec Sarah Haïdar, qui est une écrivaine algérienne libertaire et féministe, dont deux de ses ouvrages ont été publiés en France récemment chez chez Métagraphe, mais aussi chez Libertalia. L'ouvrage paru chez Libertalia s'appelle Virgule en trombe. On a également un reportage de Michael Correa qui était initialement parti pour couvrir le derby entre les deux clubs algérois, l'USMA et le Moulia d'Alger.
Il s'agissait de football.
De football, bien sûr, évidemment. Et qui restitue des discussions assez intéressantes d'ultras qui ont décidé que le moment était tellement important en Algérie, ils ont préféré rester dans la rue plutôt que d'aller au stade. Donc, ce qui montre qu'on est quand même dans une situation historique et inédite. Et également, dernière évocation, c'est une interview très intéressante de Adlan Mehdi, qui a publié un polar qui s'appelle 1994 en Algérie, mais aussi en France chez Rivage, et qui raconte justement que sa génération était peut-être passée à côté de quelque chose, donc de toute cette effervescence et toute cette autonomisation de pans importants de la société, et qui raconte ce qui explique son point de vue, et c'est un entretien extrêmement intéressant. Voilà pour la séquence publicité. Je salue l'équipe de CQFD d'ailleurs au passage.
On va beaucoup te remercier, parce que l'équipe Savurgebeau de la Seine est juste après nous, là, ils sont là. Je sais pas, je rappelle quand même que tu as écrit un très beau texte avec Mohamed Harbi, l'Algérie au bord de l'éclosion, et on espère avoir quelques fleurs qui vont fleurir. Enfin, de façon, il y en a déjà pas mal, j'imagine. Sans doute, on aura l'occasion de te demander de revenir. Voilà, je remercie Mohamed.
C'est moi qui aime beaucoup. Merci Najib. En tout cas, la situation reste à suivre, et on a encore plein de questions. Il y a certainement pas de réponse à toutes ces questions, mais justement, c'est le propre d'une situation ouverte qui évolue, et on suivra ça de près, en sachant toutes les difficultés qui peuvent être liées à ce genre de moments particuliers. Merci Najib.
Ouais, merci à vous. Merci à vous.
Merci.
Rock the casbah, rock the casbah, Sharif don't like it. Fluxar. Ay, otras carillo. Era el وقت. Lo dio te had mushuia. Ojo tiarat, o ta gol bombet. Al الناس المجرمين نكرو كلام السلطات طلعوا في الطيارات وفي العيد سمعوا
Dans la deuxième partie de cette émission sera consacrée aux centres de rétention administratifs, les fameux CRA, où depuis quand même plusieurs mois, on peut même dire depuis le 1er janvier quasiment, même avant, il y a des révoltes, des gens qui se mutilent. On est dans une situation où il y a de plus en plus de migrants sans papier qui s'y retrouvent pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a eu une nouvelle loi qui a été promulguée le 1er janvier 2019 qui a doublé tous les délais pour ces sans-papiers. Maintenant, ils y passent le double de temps, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans ces CRA et ça devient insupportable.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors déjà, merci beaucoup de nous appeler.
Merci à vous de nous permettre de nous exprimer de là où on est. C'est bien ce que vous faites. C'est génial que les gens puissent voir ce qui se passe. Et qu'ils puissent au moins nous soutenir de l'extérieur, quoi. Même si c'est des petites associations qu'on ne nous écoute pas forcément, mais il faut quand même parler, s'exprimer et se battre pour que les gens sachent ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Parce que moi, personnellement, en arrivant ici...
Est-ce que tu peux juste dire exactement où est-ce que tu es ? Comme ça, on comprend bien.
Oui, je suis au centre de rétention du Ménil-Amelot.
Ok, et ça fait combien de temps, s'il te plaît ?
Aujourd'hui, ça fait 25 jours que je suis là.
Ok. Bah, est-ce que tu peux nous raconter donc un peu comment ça s'est passé ?
Je me suis fait arrêter. J'ai été en garde à vue pendant 24 heures. J'ai été arrêtée au travail. Mmh. Et après, j'ai été en garde à vue pendant 24 heures. Et puis, on m'a emmenée directement au centre de rétention. La police n'était pas sympa. Ils étaient horribles, racistes, tout ce que vous voulez. Et après, une fois ici, je savais pas trop comment. Puisque c'est une première fois, je savais pas comment ça allait se passer. C'était quoi la prochaine étape. Donc, la CIMAD nous a beaucoup aidé, m'a guidé un petit peu. Et puis, j'ai pris un avocat. Je suis passée au premier jugement. J'ai été rejetée. L'appel à Paris. Personne n'est libéré à Paris, donc j'avais pas beaucoup d'espoir quand je suis partie à Paris. Et puis là, il y a 2-3 jours, je suis passée à Melun et c'est pareil. J'ai été rejetée, donc là, j'ai décidé de rentrer chez moi. Okay. Et puis voilà. Et en fait, ils font tout pour nous faire craquer.
Est-ce que tu peux... Tu veux nous donner des exemples ? Tu veux nous raconter ?
Oui, bien sûr. Justement, c'est pour ça que j'appelle. Il y a des gens qui sont ils ont des santé fragiles, ils sont pas bien traités, des femmes asthmatiques, une femme asthmatique qui tombe à chaque fois qu'il fait des crises de panique, des crises d'asthme, et ils la prennent pas au sérieux. Donc elle est par terre et une policière lui a dit relevez-vous, vous faites ça tout le temps, c'est de la comédie. Et puis ils prennent du temps à appeler les pompiers parce qu'ils veulent pas se casser la tête, ils veulent pas passer leur nuit à l'hôpital. Et une autre dame qui s'est fait super maltraiter, qui se fait super maltraiter par la police aussi, qui est une femme voilée. Elle a le droit à rien du tout. Si elle va à la CIMAD, elle attend devant la porte 1 heure, 2 heures, et puis après il dit c'est trop tard, il y a trop de monde. Pour la fouille, c'est pareil. Et puis, il y a les sanitaires aussi. Les sanitaires, les toilettes sont dégueulasses. Les douches sont bouchées. Et puis, quand quelqu'un prend sa douche, tout l'eau sort au couloir. Et dans le couloir, ça sent les égouts. Donc, la bouffe, c'est absolument immangeable. Il y a des bébés. Il y a des enfants, il y a des familles. Des enfants qui un nouveau-né, carrément. Un nouveau-né, ils les ont ramenés, ils ont dit qu'ils allaient rester ici 3 mois. Ils ont été rejetés au tribunal de la liberté ici à Meaux.
Okay.
Et ça, c'est aberrant, c'est affreux. Donc, il y a tellement de choses qui se passent, des gens malades, des gens complètement perdus qui ne savent pas s'exprimer, qui savent pas parler français, qui savent même pas lire le délibéré du juge, donc ils savent même pas ce qui se passe. Parfois ils partent au jugement et ils ont même pas d'interprète, ils ont pas d'avocat. Les avocats de commis d'office, ils sont compétents mais ils ont trop de dossiers à gérer, donc ils sont pas forcément ils savent pas exactement la situation de la personne. Et puis il y a plein d'autres choses. Il y a des gens qui devraient même pas être là, des Européens. Des Européens, ils sont là, ils sont retenus, ils savent pas pourquoi. Et puis comme ça, ils les passent devant un juge. Et c'est injuste, c'est du n'importe quoi. C'est franchement du n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi les centres de rétention existent. Je ne comprends pas pourquoi ils mettent des gens comme ça, ils les ramènent de chez eux ou du travail ou de n'importe quel lieu, ils les ramènent ici, ils leur donnent de la merde à bouffer, désolé. Et ils les traitent comme des chiens, et voilà quoi. Même les chiens, ils ont une meilleure vie que les êtres humains ici.
Et moi, je me demandais, parce que toi, tu disais du coup que toi, c'était la première fois et que du coup, quand t'es arrivé, t'es grave perdu. Pour les autres copines là qui sont enfermées, est-ce que c'est la même chose? Enfin, ou est-ce qu'il y avait des copines qui avaient déjà fait du centre de rétention qui ont pu un peu expliquer et transmettre aussi
Oui, dès que je suis arrivée, ce qui est bien, c'est ça, c'est que les femmes ici, on est très très solidaires. Et dès que je suis arrivée, on m'a un peu expliqué comment ça allait se passer. On m'a dit voilà ce qui se passe, voilà comment faire et tout. Et puis ouais, ils ont été. Il y a une fille qui est partie il y a pas longtemps. Mmh. Ils lui ont fait un vol caché. D'ailleurs, je voulais parler de ça aussi, parce que les vols cachés, ça, je n'ai jamais compris le principe des vols cachés. Alors, ils l'ont prise. Bon, elle a vécu toute sa vie en France. Et au bout d'un moment, elle voulait renouveler ses papiers. Et puis, je pense qu'elle avait déjà un OQTF. Et ils l'ont ramenée ici.
Okay.
Ils l'ont ramenée ici. Au bout de 19 jours, ils lui ont fait un vol. Elle a refusé le premier vol parce qu'elle voulait se battre encore. Le jour où elle partait à la CIMAD pour contacter le ministre de l'Intérieur, c'était vraiment sa dernière chance, puisque c'est une fille qui est venue à l'âge de 8 ans en France. Elle a fait ses études ici, elle a tout fait ici.
Ouais.
Et ils l'ont pris du lit avec un survêt. Ils l'ont pris comme ça, et voilà. Elle savait pas, ils nous ont dit, ouais, comment ils font pour les vols cachés? Ils disent, présentez-vous avec toutes vos affaires au couloir. Donc là, maintenant, on connaît le jeu maintenant. C'est sûrement un vol caché, surtout si c'est le matin. Donc ils l'ont pris comme ça, et elle s'est retrouvée au Maroc. Elle a pratiquement jamais mis les pieds là-bas depuis son arrivée en France. Et voilà, on a des nouvelles, ça va, elle essaie de se débrouiller, mais c'est choquant. Au jour d'aujourd'hui, je comprends toujours pas pourquoi ils font ça.
Ouais, et peut-être juste pour... Tu crois que tu peux expliquer, parce que là, quand tu parles des vols cachés, c'est parce qu'il y a une partie des vols qui sont annoncés, et ça fait aussi partie de la pression psychologique, ce jeu-là, de vols cachés, vols annoncés, un peu, tu vois, le truc permanent sur lequel joue la police. Et juste vu qu'il y a des gens qui écoutent et qui ne connaissent pas vraiment les centres de rétention, essayez de...
Oui. Au fait, au début, ils mettent un vol affiché. Mm-hmm. Et parfois, ils le mettent avant bien de passer à Melun, parce que c'est le tribunal administratif, il y a plus de chances d'être libéré. Donc, ils font un vol affiché. Et après, au bout du deuxième vol... tu peux toujours refuser, mais c'est un vol caché. Mmh. Et puis le troisième, ils te mettent un casque de boxe, te scotchent et ils te prennent à l'aéroport. Et ils te mettent dans l'avion.
Et juste pour rappeler, en fait, il y a même pas de loi qui dit que tu as le droit de refuser un vol, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, la préfecture, en gros, il y a des pratiques. La préfecture, généralement, elle ne met pas d'escorte au premier vol, des fois pas au deuxième. Et en fait, le seul truc, c'est que la brigade d'escorte, elle n'est pas assez grosse pour toutes les expulsions qu'ils veulent faire. Mais en réalité, il n'y a même pas de loi qui protège quelqu'un et qui lui offre la possibilité de dire non, je refuse ce vol parce que j'ai envie de faire un recours juridique, par exemple. Enfin, ça montre à quel point ils en ont, enfin, ce qu'ils pensent des recours juridiques, quoi.
Il y a un vide, en fait, là-dessus, un vide législatif. Mais bon, après, si justement, ces vides-là, ils peuvent être utilisés aussi pour mettre en place des petites pratiques de résistance, c'est intéressant. Et résultat, moi, je voulais te demander, est-ce que toi, tu as été témoin de tentatives de résistance? Est-ce que vous discutez de peut-être essayer de faire des choses ensemble, même par rapport à la bouffe, ou est-ce que vous avez des moments peut-être collectifs où vous discutez de ça? Je voulais avoir ces infos-là.
Oui, en fait, on a prévu de faire une grève de faim.
Ok.
Parce qu'on a entendu, on a un petit contact avec le centre de Vincennes.
Ouais.
Et on a vu que ça avait marché, que les gens sachent ce qui se passe, et j'essaye d'aller vers les gens et leur dire il faut qu'on s'organise. Mais après, j'étais trop occupée par ce qui m'arrivait. Donc, mais en même temps, j'allais les voir et je leur disais il faut qu'on fasse une journée où on va pas manger. Moi, j'y vais jamais au réfectoire. Mais il y a des autres qui y vont, on n'est pas encore arrivé à convaincre tout le monde pour le faire, parce que même par rapport à la CIMADE, on a parlé de ne pas aller à l'infirmerie, de pas parler à la police, genre de rester juste à l'intérieur du CRA ou juste dans la cour pour pouvoir nous exprimer, et on est en train d'organiser ça, et j'espère pouvoir le faire avant de partir.
D'accord.
Ouais, parce que c'est ça le truc qui. C'est ce qu'on disait en fait là tout à l'heure quand on parlait du CRA 1 de Vincennes là, qui s'était mis en lutte il y a deux semaines. Le truc qui est toujours compliqué en fait dans les centres de rétention, c'est ce truc là de. À la fois tu peux y être pour 3 mois, à la fois tu peux y être pour 24 heures. Et chaque journée est une nouvelle journée où en fait on ne sait pas qui entièrement sera là toute la journée, quoi. Et c'est des freins de.
D'organisation.
Ouais, assez fort, quoi. Et du coup, c'est. C'est ce qui fait que les mouvements collectifs, ils sont encore plus, je sais pas comment dire, c'est encore plus fort, quoi, quand il y a un mouvement collectif qui se fait, parce que tout est fait pour pas que ça arrive, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Moi, en tout cas, depuis que je suis là, j'essaye de aider tout le monde. Quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, on l'accueille, on lui donne des vêtements propres. On a reçu à bas les centres de rétention, je les ai eus au téléphone, ils sont venus. Ils ont ramené des serviettes hygiéniques pour les femmes, ils ont ramené quelques vêtements propres. Donc on les a gardés, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, on lui donne. J'essaye de faire le maximum, quoi. Et j'ai beaucoup appris, même si c'est une mauvaise expérience. Mais ça nous apprend plein de choses, ça nous sensibilise, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, au fait.
Ouais.
Ça peut arriver. Je me suis dit, jamais je me serais imaginé être là aujourd'hui. Et ça n'arrive vraiment pas qu'aux autres. Et
Toi, tu travaillais en France, tu travaillais ici depuis combien de temps?
Je suis là depuis 2 ans et je travaille depuis 1 an et demi. Je suis directe, j'ai toute ma famille ici, mes parents sont décédés, j'ai personne en Algérie. Voilà.
Ok. C'était pour mieux, je te posais cette question-là pour justement aussi mieux situer, tu vois, quand tu dis ça n'arrive pas qu'aux autres. Effectivement, c'est vrai qu'on a des fois, on peut avoir l'image... comme quoi, bah, si on a de la famille en France, etc., ça nous touchera pas. Alors que en réalité, on voit actuellement que ça s'attaque vraiment à tout le monde, quoi. Qu'en fait, il y a pas de distinction dans le choix des gens qu'on va mettre en centre de rétention.
Ouais, exactement. Bah, personne n'est épargné. C'est des gens avec des situations bien, avec des familles, avec une résidence, avec une adresse. Qui sont stables, qui ont un travail, ils ont des copains, des copines, qui ont des projets de mariage, ils ont des projets de vie ici. Moi, personnellement, j'ai été arrachée à ma famille, à mon travail. J'étais stable. j'étais stable, j'étais bien. Je me suis dit, je vais essayer de reconstruire ma vie. Et puis, voilà, personne n'est à l'abri, quoi. Personne n'est à l'abri. Ils ramènent des gens du RER. Il y a une femme qui l'a ramené du RER. Elle avait validé son titre de transport, normal, elle était assise, contrôle de papier. Pas de papier, et ben, ils l'ont ramené ici. Rien du tout. Et là, ça fait 25 jours qu'elle est là. On est arrivés le même jour. Et elle est malade. Elle a personne ici et personne au Maroc. Et je devrais pas trop dire le détail.
Non, peut-être. Le fait est que la situation que tu décris, en tout cas, on peut dire que c'est des situations qui sont récurrentes. Et donc, on voit véritablement à travers ton témoignage l'absurdité. De ces pratiques. C'est-à-dire que non, ça n'a absolument pas à voir avec est-ce que tu participes d'une communauté qui s'établirait sur un territoire ou pas. Ça a à voir avec autre chose et c'est véritablement arbitraire et c'est véritablement injuste et c'est effectivement absolument illégitime. Et donc, oui, les centres de rétention ne devraient pas exister.
Ouais. Et désolé, parce qu'en fait, l'émission, elle avance et on va devoir bientôt terminer. Et du coup, on se demandait, est-ce que toi, il y a une chose que tu voudrais rajouter, un truc que tu voudrais dire en plus ?
Les gens devraient venir voir, visiter les gens et voir de quoi ils ont besoin. Parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment personne. Ils n'ont pas de vêtements, pas de manger. Ça serait bien si quelqu'un est appelé à la visite et il ramène des vêtements propres et un grec ou un coca ou un truc qui donne un peu de force parce que il y a des personnes vraiment qui sont, genre j'ai l'impression qu'ils sont abandonnés ici, oubliés par l'État et par tout le monde. Yes. Et il y a une chose que je voudrais dire aussi, c'est que je suis partie voir un chef gradé parce que j'étais pas contente par rapport à une situation. Il y a un policier qui m'a dit, je prends ma douche tous les jours, c'est normal, c'est un truc que tout le monde fait. Il m'a dit, pourquoi tu sens bon tout le temps? Pourquoi tu t'habilles bien? Tu essayes d'attirer qui ici? Et il m'a dit, tu veux attirer des sans-papiers, ça va te servir à rien du tout. Genre, il m'a démoralisée. Déjà, je lui ai répondu, je lui ai dit, toi, tu sais pas c'est quoi une femme, parce que si je fais ça, c'est pour moi, et déjà, ça te regarde pas du tout. Donc, je suis partie voir le chef gradé, il m'a dit, oui, c'est noté, et puis après, j'ai profité de l'occasion pour le ramener ici, pour lui montrer, il y avait une dame qui avait pas de lumière dans sa chambre, elle avait pas d'ampoule, ses ampoules, elles fonctionnaient pas, elle avait juste une petite lumière. C'était une dame qui a été libérée. On a été très très contents. Tout le monde était content pour elle. Et du coup, ils sont venus. Il fallait que je fasse une crise de panique et que je sois en larmes et dans tous mes états pour qu'ils viennent voir ce qui se passe ici, à l'intérieur des chambres. Et n'en parlons pas des gens qui tapent pas. Les policiers, ils viennent à minuit. S'ils ramènent une personne à minuit, ils viennent, ils ne frappent pas aux portes alors qu'on est des femmes. Un minimum de dignité, un minimum de respect. Et n'en parlons pas aussi des policiers qui viennent à 6h du matin prendre les gens pour les TGI et tout ça. Ils chantent dans les couloirs, ils crient, ils frappent aux portes, ils ouvrent les portes et ils menacent les gens. Une dame est venue, elle est restée que 24 heures et elle a été renvoyée chez elle. Il lui a dit, une dame lui a dit, c'est la personne la plus raciste que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Elle lui a dit, si tu refuses le vol, ben t'es, on va t'emmener en prison, on va te scotcher. Alors que c'était son premier vol et la dame elle voulait partir. Et en plus il fallait traduire pour elle. Donc heureusement j'ai pas traduit pour la dame, sinon elle aurait été terrorisée. Et voilà quoi.
Ok.
Il y a tellement de choses, je suis sidérée par cette situation, je suis dégoûtée de la France, dégoûtée de ça. Il y a pas de droits de l'homme, il y a pas, ça n'existe pas en France. Ils se battent pour je sais pas quoi, ils se battent pour des bancs, les chiens, ok, c'est important et tout, ils se battent pour les chiens qui se fassent adopter ou qui se fassent traiter, alors que les gens ici, ils sont oubliés.
Salut à toi, ô mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, la lune. l'Algérien. Salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh. Salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien. Salut à toi punk iranien.
Salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident. Salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien. Salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan. Salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien.
Salut à vous les partisans, salut à toi la chaulie allemande. Salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien. Salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais. Salut à toi le laotien, salut à toi le coréen.
Salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais. Salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien. Salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais. Salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain. Salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais. Salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain. Salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais. Salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen.
Salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais. Salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain. Salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le nigérien. Salut à toi le gabonais, salut à toi le Vichtimi.
Salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats. Salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides. Salut à toi la Pertaga, salut aussi à la Banda. Salut à toi Paik anarchiste, salut à toi Arsid communiste.
Salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka. Salut à toi le Sandiniste, salut à toi le Nijambiste. Salut le mouvement des Chevalins, salut à toi Guatemala. Salut le PK du Cortajan, salut à toi le Chocotan. Salut à toi Patrick le Canaille, salut à toi Thierry Postorage. Salut à tous les petits dragons, salut à toi Chiré Japon. Salut à toi Chiré Japon, salut à toi le peuple de masse. Salut à toi Jean Violon, salut à toi El Morocco.
Salut à toi le Yougoslave, salut à toi le voyou slave, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Rabachon,
salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Ivoquois, salut aussi à tous les gosses, c'est moi des jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les Azous, salut à
vous,
salut à toi le peuple de Corse, salut aussi les présidents, salut à toi la vache qui vit, salut à toi les Arabes, salut à toi peuple normal. Salut à tous les Kamawan, salut à tous les Tigers, salut aussi à nos Riders, salut à toi l'Antichambé, salut jeunesse du Portier, salut à toi, salut à toi, salut à toi, salut à toi le Pomadère, salut à toi Tonton Albert, salut à toi Kélamas, salut aussi à Fantomas. Salut à toi Roger les Prêts, salut à toi Landy Manchet, salut à tous les paysans, salut aussi à Ramon Blanc. Salut à toi, salut à toi, salut à toi, salut à toi,
simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est sain, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassul à Toulouse, à Local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.